Pour nous ce recueil des promesses divines que tu accomplis et que tu réalises pour tous ceux qui se confient en toi. Et combien de fois, Seigneur, nous avons vu cette parole s'accomplir et s'accomplir admirablement. Et nous croyons que tu veux encore nous parler par son moyen. Nous croyons que tu veux encore nous faire faire des expériences de véritable foi, les uns et les autres, Seigneur. Nous te bénissons pour l'œuvre d'amour que tu accomplis, que tu opères encore maintenant. Au milieu de ton peuple et de tes enfants. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, eh bien, je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte dans le livre des Proverbes. À peu près au milieu de la Bible, après les psaumes, vous avez les Proverbes. Et nous lirons au chapitre 9. Proverbes chapitre 9, verset 1er. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Voilà. Passage des Proverbes. Je dirais que la sagesse dont il est parlé là peut être avantageusement prise comme une image de l'assemblée, de l'Église. De l'Église, dirais-je, qui agit avec sagesse. De l'Église qui est remplie de sagesse. C'est Tozer, donc, qui, parlant de l'importance de l'Église, a fait la remarque suivante. L'homme qui vient à Christ dans la solitude d'une repentance et d'une foi personnelle est aussi né dans une famille. L'Église est appelée la maison de Dieu et la famille de Dieu. Et c'est le lieu idéal pour éduquer et élever de jeunes chrétiens. De même qu'un enfant obligé de vivre tout seul ne pourra pas grandir pour devenir un adulte normal, ainsi le chrétien qui se retire de la compagnie d'autres chrétiens en souffrira de grands dommages pour son âme. Il ne pourra jamais espérer se développer normalement et de manière équilibrée. Intéressant et important. Important à retenir. L'assemblée des croyants, l'assemblée des fidèles, ce que l'Écriture appelle l'Église, c'est absolument indispensable et nécessaire pour nous. Mais il faut évidemment que cette assemblée agisse et se comporte avec sagesse, que ce soit dans ses œuvres, que ce soit dans l'accomplissement de ses devoirs, que ce soit dans la réalisation de ses buts et de ses objectifs. Et on peut discerner dans notre texte une douzaine d'étapes que nous voulons considérer successivement. Déjà, en premier, il nous a dit que la sagesse bâtit sa maison. Là, nous sommes en train, frères et sœurs, de bâtir une maison. Nous sommes en train de bâtir quelque chose dans une assemblée. On bâtit, on construit. Alors, ce n'est pas forcément une construction terrestre. Nous participons à la construction d'une maison spirituelle. En fait, nous participons à la construction même du temple céleste. Et c'est pour ça que l'apôtre nous dit « Et vous, pierre vivante », il s'adresse à nous comme étant des pierres vivantes, « Vous, pierre vivante, édifiez-vous ensemble hein ». Et c'est pour cela qu'il est nécessaire que nous nous laissions former, que nous nous laissions tailler hein, pour avoir chacun notre place, de nous laisser quelque part liés les uns aux autres, comme les pierres sont liées les unes aux autres dans le mur. Donc elles sont par le mortier, et spécialement ce mortier qui est celui de l'amour et celui de la vérité tout en même temps. Il est nécessaire que nous puissions chacun trouver notre place en accord avec les autres, et que nous puissions réaliser l'importance des autres pour nous. Sans cela, comment pourra-t-il y avoir une maison spirituelle j'ai eu l'occasion de lire il y a quelque temps un article sur la cause qui explique la cause du vieillissement. En fait, le vieillissement, ce n'est pas tellement la perte de force de certains des organes du corps, mais l'article expliquait que le problème, c'était que les organes ont tendance à cesser de collaborer les uns avec les autres pour faire cavalier seul. Les gens meurent de vieillesse parce que les organes du corps sont incapables de collaborer. Ils deviennent indépendants et se séparent pour former quelque part leur propre groupe, si on peut employer cette illustration. Et ainsi en est-il dans une assemblée. Ainsi en est-il dans l'Église. Quand nous travaillons ensemble, quand nous développons ce sens de la collaboration, de l'unité, de la fraternité, lorsque nous agissons de concert, lorsque nous avons à cœur vraiment cette devise qu'on appelle « tous pour un ». Un pour tous, voilà, vous connaissez. Alors, lorsque nous recevons le directif de la tête, et la tête, c'est Christ, la tête de l'Église, alors nous formons une assemblée que Dieu peut véritablement soutenir, que Dieu peut véritablement approuver. Et à ce moment-là, Dieu nous accorde des dons, il accorde à chacun des dons. L'Écriture nous dit que nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et ces dons, bien, ils sont là pour édifier, pour construire ensemble. L'apôtre ajoute encore, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il ajoute, aspirez aux dons les meilleurs. Et il explique encore que Christ, étant monté en haut, a fait des dons aux hommes. Et ces dons, bien, ils sont destinés justement à ce que nous puissions agir et à ce que nous puissions fonctionner ensemble. Et vous savez, dans notre corps, c'est pareil. Nous avons tous un ventre, par exemple. Alors, ce ventre, eh bien, il n'est pas. Quelle est sa fonction? Je dirais, c'est un don de Dieu, quelque part. Il ne sert pas à soutenir le pantalon, le ventre, pour les frères. Et puis, je dirais qu'il a d'autres fonctions que d'être entouré d'une ceinture, simplement. Nous savons que ce ventre a un but, ce ventre a des fonctions. Et à quoi sert votre foi? À quoi servent vos yeux? Ils ont des utilités, ils ont des fonctions qui sont bien précises. Et s'ils remplissent leur fonction comme il se doit et que les autres organes collaborent, alors vous êtes, et moi, une personne en bonne santé. C'est comme ça que ça se passe, et de la même façon pour l'Église. Et donc ce but final, c'est celui de la construction, de l'édification de cette œuvre de Dieu, de ce temple saint et parfait, de ce royaume éternel, de salut et de gloire, bref, de bâtir la maison de Dieu. Donc, premier élément que nous voyons dans notre texte, la sagesse a bâti sa maison. Après, il est poursuivi, il est continué en disant, la sagesse a taillé ses sept colonnes. Taillé ses sept colonnes. Et ça, c'est une part importante de la construction, parce que les colonnes, eh bien, ça sert à soutenir l'ensemble de la superstructure. Et cette image, elle peut être prise de plusieurs manières, parce que nous avons déjà besoin de sept colonnes dans notre vie spirituelle personnelle. Chacune et chacun d'entre nous, si nous avons reçu le Seigneur, eh bien, il y a des choses qui sont là et qui vont nous soutenir. Et nous devons les avoir comme colonnes dans notre vie. Vous avez la prière personnelle, déjà, ça c'est une colonne, la relation avec le Seigneur. Ensuite, vous avez l'amour pour la parole de Dieu, ça c'est encore une colonne aussi qui est importante. La communion fraternelle, quand nous sommes en relation les uns avec les autres, en lien les uns avec les autres. Et l'Écriture nous parle aussi de la fraction du pain. C'est une colonne aussi parce que ça nous rappelle l'œuvre extraordinaire de Christ. Et puis nous avons aussi l'attachement au ministère, tel que nous le trouvons par exemple au début du livre des Actes des Apôtres. Et puis le fait de rendre témoignage à d'autres. Et puis bien sûr cet esprit de service pour Dieu. Voilà. Quand nous avons ces choses-là, si ces choses-là sont dans notre vie, si elles sont là régulièrement, si elles sont là en abondance, eh bien, nous serons effectivement soutenus, fortifiés, et notre édifice de foi tiendra. Et il tiendra jusqu'en dans la gloire par le secours du Seigneur. Amen. Et puis ensuite, vous pouvez prendre encore ces sept colonnes sous un autre aspect. Les sept colonnes de notre doctrine. La doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ce que nous croyons. Ce sont les éléments de ce que nous croyons. Nous avons tous besoin d'avoir une saine doctrine. L'Écriture est très claire sur ce point-là. Je n'irai pas le passage, mais dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, il nous a expliqué quelles sont les sept colonnes de la doctrine. Et il nous a dit que la première chose, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Est-il marqué? Voilà. La deuxième chose, c'est la foi en Dieu, toujours dans le verset premier. Après, vous avez la doctrine des baptêmes, que ce soit le baptême d'eau, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, par exemple. Vous avez aussi la doctrine de l'imposition des mains, dont il est parlé au verset 2 également. C'est sûr, tout ça, c'est la quatrième colonne. Vous avez la doctrine de la résurrection des morts aussi, avec bien sûr toutes les conséquences merveilleuses que cela a pour les croyants. Vous avez la doctrine du jugement éternel, dont il nous est également parlé dans ce verset 2. Et enfin, vous avez la doctrine de la persévérance finale, qui est développée depuis le verset 4 jusqu'au verset 20. Et il est important, je vous cite ça simplement ces choses en passant, mais il est important que ces choses soient dans notre vie parce que ça constitue les colonnes de notre doctrine. Et cette doctrine doit être dans notre esprit, mais elle doit être dans notre cœur, dans nos vies, parce que c'est ainsi que par la foi et la persévérance, nous hériterons des promesses. Amen. Voilà. Et puis le Seigneur nous appelle à aussi être des colonnes dans l'œuvre de Dieu. Ça aussi c'est important parce que ça ce sont des personnes, vous retrouvez ça également dans l'écriture, elle nous est expliquée par exemple aussi de certains apôtres qui sont regardés, considérés, qui étaient considérés comme des colonnes et nous avons la merveilleuse promesse du Seigneur dans l'Apocalypse qui dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus ». Amen. Voilà. Alors laissons-nous tailler, frères et sœurs, pour être de ces colonnes qui sont fidèles, qui sont solides. Parce qu'une colonne, quand elle est là, vous voyez, il y a des colonnes qui sont là. Ces colonnes qui sont là, elles sont là, et heureusement qu'elles sont là. Imaginez qu'elles aient la possibilité de se promener ou le désir de le faire. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des problèmes, Donc, dans le bâtiment. Donc, ça parle donc une colonne, ça parle de fidélité, ça parle de solidité, pour que le Seigneur puisse là aussi compter et appuyer son œuvre sur cela. Amen. Amen. Et puis, je vous ai expliqué au verset 2, après, la troisième chose, la sagesse a égorgé ses victimes. Alors, ça peut être un sujet d'étonnement pour des croyants. Il est marqué « ses victimes ». Et pourquoi pas « la victime » Parce que pour ce qui nous concerne en tant que croyants, nous savons qu'il n'y a qu'une seule victime parfaite. Il n'y a qu'un seul sacrifice parfait. C'est celui qui a été offert par Jésus-Christ, lorsque son propre sang a été répandu pour nos péchés. Parce que lui-même est le seul qui était sans péché, et seul son sacrifice peut être accepté, Christ, l'agneau immolé, qui a donné sa vie pour les péchés du monde. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait une bonne chose, entre autres, une bonne chose, c'est que chacun, puisque Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre pour offrir le sacrifice, alors les gens, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Quand ils avaient péché, ils devaient chacun apporter une brebis pour leur propre péché. Ce n'est pas le sang de la brebis qui allait enlever les péchés. Mais ce sang, par la foi qu'il mettait dans le Rédempteur à venir, ce sang allait couvrir les péchés en attendant le moment où viendrait celui qui les enlèverait. Voyez-vous ? Donc c'était comme ça que les choses se passaient. Et ça voulait dire quoi ? Mais ça voulait dire que les gens se saisissaient du pardon pour eux-mêmes, en amenant leur propre brebis, en amenant leur propre sacrifice. Et c'est pour ça qu'il est parlé, la sagesse donc a égorgé ses victimes, c'est-à-dire les victimes de tous ceux qui venaient, la victime de tous ceux qui venaient. Et ça voulait dire qu'ils saisissaient le pardon pour eux-mêmes. Ce n'était pas une espèce de généralisation vague, personnelle, ce n'était pas ça. Il y avait un seul sacrifice qui était offert, mais ils se le prenaient pour eux-mêmes. Ils s'en saisissaient, ils se l'appropriaient pour eux-mêmes. Et c'est ça aussi que nous avons besoin, chacune et chacun d'entre nous. Nous avons besoin de nous approprier le sacrifice de Jésus pour nous-mêmes. Jésus est mort pour mes propres péchés. Si j'étais le seul pécheur de la terre, Jésus serait mort pour mes péchés. Voilà, qu'on puisse se dire cela, qu'on puisse saisir cela et que ça soit aussi la base de notre foi. Amen. Et puis, il est dit aussi, la sagesse ensuite a mêlé son vin. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle évidemment ce vin que le Seigneur a pris à la Sainte Cène au dernier repas, dont il a ordonné à ses disciples qu'ils devaient en boire tous en souvenir de son propre sang qui allait être versé à la croix. Et que nous devions faire ainsi, si nous sommes ses disciples, jusqu'à ce qu'il revienne. Il a clairement exprimé cela. Et ça veut dire, voilà, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église du Dieu, l'Église qui est fidèle à Dieu, de ce rappel constant de la grandeur, de la profondeur, de l'excellence de ce sacrifice et du sang qui a été ainsi versé pour nous. C'est ça la grande raison de reconnaissance que nous avons et que nous rappelons et que nous devons toujours approfondir et parce que c'est un puits sans fond d'amour que celui qui a été ainsi manifesté par ce sacrifice sur la croix. Amen. Et puis il nous a dit encore ensuite, dans ce même verset 2, une cinquième chose, c'est que la sagesse a dressé sa table. Et la table, alors, nous le voyons, eh bien, c'est une image de communion. Voilà, c'est l'image, voilà, on se retrouve avec quelqu'un à cette table, et vous lisez par exemple, pardon, dans le psaume 23, et il est question d'une espèce de communion particulière qui est une communion protectrice avec Dieu face à l'adversité, face à l'inimitié. C'est pourquoi il est marqué, l'auteur du psaume dit, s'adressant à Dieu, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Hein ». Donc mes adversaires sont là, mais puisque tu es là à ma table, que tu es là, que tu m'as invité à cette table que tu as dressée, je suis protégé. Je suis gardé de mes adversaires et de leurs tentatives. Et puis, cette table, c'est une image aussi de la communion qui va s'établir et qui va rester entre le Seigneur et celui qui l'accueille dans son cœur, celui qui va l'accueillir. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Et lui avec moi. Bref, nous serons à cette même table de communion. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Et si ce soir, quelqu'un parmi nous entend Jésus, la voix du Seigneur qui s'adresse à lui au travers de sa parole, il entend la voix du Seigneur qui s'adresse à son cœur, à son âme et à sa conscience, et qu'il ouvre la porte de son cœur, Jésus va entrer chez lui. Alléluia. Et tout va être différent, et tout va être changé. Et par sa communion, eh bien, des choses merveilleuses vont se passer. Amen, amen. Et puis aussi, ben voilà, vous avez encore, je dirais que cette table, c'est l'image aussi de la communion qu'il y a dans l'œuvre de Dieu, celle que le Seigneur prépare. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, est-il dit là. Ça, c'est l'anticipation. Et l'anticipation des noces qu'il va y avoir dans la gloire, le festin des noces de l'agneau dont il nous est parlé aussi dans l'Apocalypse. Donc, et ça, c'est l'introduction, la préparation, déjà cette communion que nous avons avec Jésus, avec le Seigneur ici, en préparation, en anticipation, en art, comme on dit, d'une communion bien plus élevée dans la gloire du ciel. Amen, amen. Et puis je poursuis, bien sûr chacun de ces points mériterait encore bien des développements, mais il est marqué que la sagesse aussi au verset 3 a envoyé ses servantes. Alors ça, c'est une image comparable à celle du roi qui, dans la parabole donnée par Jésus, envoie ses serviteurs pour aller chercher les conviés à la noce qu'il a préparée pour son fils en leur disant « Venez, car tout est prêt. Tout est prêt. » Venez aux noces, voilà. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est important que l'Assemblée prouve sa sagesse en envoyant ses membres, je dirais, travailler pour Dieu et inviter tout spécialement des personnes nouvelles. Les inviter pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cet évangile, qu'ils puissent bénéficier du festin de l'amour de Dieu, du festin de la grâce de Dieu. Celui qui gagne les âmes est sage, nous dit l'Écriture. Et ceux qui travaillent dans ce sens, eh bien, manifestent une sagesse que Dieu approuve et que Dieu conforte et que Dieu soutient également. Amen. Et puis, il nous a expliqué encore au verset 3 que la sagesse est élevée sur les sommets, sur les hauteurs. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Et c'est parce qu'elle fait ainsi que, quelque part, son message a une hauteur, une autorité, une valeur spirituelle. Donc, elle va prouver sa sagesse en faisant quoi ? Mais en cherchant, vous savez, pour nous, le plus important, ce qui est le plus important pour nous qui sommes là, bien sûr, c'est d'être en rapport d'affection, d'amour profond les uns avec les autres. Mais c'est surtout parce que nous cherchons à élever nos âmes. C'est surtout parce que nous cherchons à nous approcher du Seigneur. C'est surtout parce que nous cherchons à élever nos cœurs que cela est possible. Alléluia. C'est parce qu'il y a dans nos cœurs l'amour de Dieu que nous pouvons avoir l'amour pour nos frères et sœurs. Si nous cherchions simplement à avoir l'amour pour nos frères et sœurs en puisant dans nos propres ressources, ça n'irait pas loin. Mais puisque nous cherchons à élever nos cœurs et que nous cherchons à élever nos âmes, eh bien à ce moment-là, Dieu va pouvoir se manifester et Dieu va pouvoir se glorifier. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître Dieu en vérité et pas de connaître Dieu seulement en théorie. Vous savez, Je connais M. Macron. Je connais M. Macron. Si je vois une photo de M. Macron, même si j'entends sa voix à la radio, eh bien, je reconnais M. Macron. Mais je ne connais pas M. Macron, en fait. Je ne le connais pas. Je peux voir, le reconnaître ici, dans le journal ou n'importe où, mais je ne le connais pas vraiment, en fait. Je n'ai pas de relation avec lui, je n'ai pas de contact avec lui, je n'ai jamais parlé avec lui, je n'ai jamais échangé avec lui. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez une différence entre connaître superficiellement et connaître réellement. Et vous avez des gens comme ça. Hein, je dirais dans les choses de Dieu, mais les choses de Dieu, c'est la même chose. Vous avez des gens, bien, ils vont être capables de parler de Dieu, ils vont quand même être capables de, peut-être d'écrire des livres sur Dieu. Ils vont peut-être être capables, je ne sais pas, ils vont pouvoir parler du fait, de la théorie que Jésus-Christ est mort pour le péché du monde, ils vont pouvoir vous donner toutes ces choses-là. Mais ils n'ont pas de relation personnelle profonde avec lui. Ils n'ont pas de connaissance intime de Dieu. Et ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui ont une connaissance intime du Seigneur. Et comment cela peut-il se faire ? Eh bien, ça se fait par l'action du Saint-Esprit qui se révèle à nos cœurs. Ça se fait par l'action de la nouvelle naissance qui s'opère dans nos âmes. Hein. On peut être ici depuis 20, depuis 30 ans, et puis connaître des choses à propos de Dieu, mais ne pas connaître Dieu personnellement. Et la grande chose, elle est là. Le grand point, il est là. Parce que c'est comme ça seulement qu'on élève nos âmes. C'est comme ça seulement qu'on a un esprit de louange et d'adoration. C'est comme ça seulement qu'on adore le Père en esprit, en vérité. Amen. Et c'est pour ça que, oui, c'est vrai, certains sont encore là, dans les réunions, et puis se disent, voilà, bon, ils regardent leur montre, hein, le mouvement de louange va bientôt finir, etc. Vous avez ceux qui font comme ça, et puis vous avez ceux qui sont dans un esprit de louange, un esprit d'adoration et de communion avec le Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont dans la joie de l'amour de Dieu, et parce qu'ils peuvent élever leurs âmes vers lui. Amen. Amen. Et voilà, donc ça veut dire il est combien indispensable d'avoir cette connaissance juste, vraie, approfondie et expérimentale du Seigneur. Et puis nous voyons une autre chose encore, une huitième chose, toujours dans ce verset 3, c'est que la sagesse crie pour annoncer son message. C'est marqué qu'elle crie, elle proclame ce message à haute et forte voix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon qu'elle est consciente déjà de l'urgence qu'il y a à porter ce message. Les besoins sont si grands. Les besoins sont si grands, que de gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, ou qui sont simplement dans l'inconscience, et qui existent, mais qui ne vivent pas, qui ont une existence, mais qui n'ont pas la vie véritable, et que ça pourrait être tellement différent s'ils pouvaient recevoir ce message de l'Évangile. Et elle crie, pourquoi ? Parce qu'elle sait que c'est la seule solution pour le péché et la misère de ce monde. Et qu'il n'y a pas de message plus important que celui-là. C'est ce message-là qui est vraiment le plus nécessaire parmi tous les messages. Et puis elle sait que c'est son devoir primordial, c'est son devoir universel, son premier devoir à l'égard des hommes. C'est pour ça que le Seigneur a laissé son Église sur la terre. Vous savez, si ça n'avait pas été ça, le Seigneur, il vaudrait mieux qu'il nous prenne tout de suite, n'est-il pas vrai ? Hein ? Mais il veut que nous soyons des témoins, que notre flambeau, notre lumière brille au milieu des ténèbres et que notre voix résonne avec force dans ce monde sans espérance afin d'y transmettre le salut et la délivrance de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et puis, il nous a dit, alors là encore une chose surprenante, la sagesse appelle les stupides. Ah, c'est pas de cette manière-là qu'on attire les gens d'habitude, en les appelant des stupides, n'est-il pas vrai ? Hein ? C'est pas comme ça, si on va pas attirer les mouches avec du vinaigre. Hein ? Et pourtant, elle les appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que cet appel, il va toucher qui ? Il va toucher les gens qui vont reconnaître leur manque, qui vont reconnaître effectivement leur stupidité. La stupidité, eh bien, c'est reconnaître notre manque de vraie intelligence. Hein, reconnaître notre folie, reconnaître notre culpabilité, reconnaître notre propre incapacité. Combien de gens qui se croient capables, ils sont persuadés de toutes leurs possibilités jusqu'au moment où ils se retrouvent coincés. Et alors là, d'un seul coup, ils réalisent leur impuissance, et alors s'ils se mettent à crier au Seigneur, alors ils sont dans cette bonne position et dans cette bonne disposition. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que c'est seulement de cette manière-là Dieu sauve le peuple qui s'humilie, est-il dit. Celui qui s'humilie devant Dieu, eh bien c'est celui-là que le Seigneur va élever. C'est à celui-là qu'il va pouvoir manifester sa grâce, celui qui reconnaît le péché qui est dans son cœur et les conséquences, la corruption que ça va engendrer. Eh bien, celui-là qui reconnaît ces choses, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va pouvoir intervenir et agir dans sa vie. Et vous savez, on est vraiment devant cette réalité. Je lisais l'autre jour quelque chose qui était frappant et qui nous parle de la nature humaine, telle qu'elle est dans ce monde, et telle que Dieu la voit, et telle qu'elle est en fait réellement. Et donc, c'était une illustration du récit donc, de Noé en voyant le corbeau, rappelez-vous, en reconnaissance à la fin du déluge. Hein. Donc, et je lis donc ce petit récit. Noé a décidé de découvrir si la terre était sèche en se servant d'un oiseau. Il voulait savoir si les eaux du jugement avaient baissé. Il a donc ouvert la fenêtre et poussé le corbeau hors de l'arche. Nous avons ici un tableau qu'il est probablement difficile de visualiser ou de comprendre. Nous voyons un oiseau noir fendre l'air à travers la désolation. Mais à quoi ressemblait cette désolation? Que représentait-elle? Que signifiait-elle? Elle ne signifiait pas autre chose que le jugement de Dieu. Le mécontentement de Dieu frappait la terre avec violence. Les eaux du jugement, la vase bouillonnante, les corps flottant à la dérive, toutes les choses qui avaient été frappées de mort, et les monceaux d'épaves de toutes sortes flottant à la surface des eaux, tout cela était le signe du jugement de Dieu sur la terre. L'oiseau noir a filé à tire-d'aile à travers cette étendue désolée, et son cœur pervers s'y est senti à l'aise. Après tout, n'était-il pas un mangeur de charognes? Il était donc normal qu'il se sente bien parmi les charognes. En s'élançant hors de l'arche chaude et éclairée, et loin de la présence de Noé, le corbeau a poussé un coassement de joie. Les signes évidents de mort et de jugement auraient dû constituer une vue répulsive et horrible aux yeux du corbeau, mais il était bâti pour s'y sentir à l'aise. Dans son cœur mauvais, quelque chose aimait cela, parce qu'il en tirait sa subsistance. Il a immédiatement plongé vers la terre et s'est probablement posé sur un cadavre tout proche. Nous pouvons le voir arracher des lambeaux de chair à moitié pourris à l'aide de son bec puissant. Il a déchiré et dévoré jusqu'à ce que, repu plus que de raison, il se soit senti envahi par une douce torpeur. Alors, heureux et paisible, il s'est agrippé à la dépouille flottante et s'est endormi en croissant une bonne nuit. Il avait trouvé le genre de bonheur que désirait son cœur. La corruption, la désolation, la vase, la saleté, la chair pourrie et les choses mortes, voilà tout ce qui répondait à ses dispositions et à son tempérament. En fait, il se nourrissait de cadavres. Mon ami, ce tableau illustre de façon éclatante comment sont les choses dans le monde aujourd'hui. Quand l'homme a péché et que Dieu s'est éloigné de lui et lui de Dieu, il est sorti du lieu qui avait été Éden et s'est multiplié, malgré le jugement de Dieu qui le frappait. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, dit l'Écriture. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà ce que Dieu a promis. Dieu déclare être mécontent de tout homme. Et à moins que nous nous repentions, nous périrons tous. Toutes les nations du monde seront précipitées en perdition. Dieu est irrité contre toutes les nations du monde, à l'est et à l'ouest. Il frappera de jugement les pays de l'est, de même que les pays soi-disant libres. Le grand jugement de Dieu frappe l'humanité tout entière, sans faire exception de personne, jaune, noir, blanc, lettré, illettré, cultivé, inculte, homme des cavernes, hommes érudits du monde entier. Pourtant, les gens ne semblent pas s'en inquiéter. Et cela parce que l'homme porte en lui ce qu'on appelle le péché. Cela ne tracasse pas du tout parce qu'il est comme le corbeau. Il se sent chez lui au milieu de la désolation. Le cœur méchant de ce corbeau était fasciné par le jugement et la désolation. L'homme aussi se sent à l'aise dans un monde qui se trouve sous le jugement de Dieu. Il n'y a eu qu'un seul homme bon à être jamais venu sur cette terre. Cet homme a réussi à vivre jusqu'à l'âge de 33 ans. Après quoi, on s'est emparé de lui, on l'a cloué sur la croix. Plus un homme est bon, plus il est méprisé par ceux qui aiment la désolation, les ténèbres et le péché du monde. De même que le corbeau n'est pas revenu vers l'arche, mais a vécu au sein de la désolation. Ainsi les hommes ont bâti leur civilisation sur des cadavres flottant à la surface des eaux. Nous aimerions bien pouvoir penser qu'il en est autrement. Nous sommes fiers de notre culture. Nous sommes fiers de nos ponts, de nos routes, de nos progrès dans le domaine spatial, de nos systèmes d'éducation, de toutes les choses que nous pouvons faire. Toutefois, Dieu regarde au cœur et dit, la terre est remplie de violence. Et c'est vrai. Elle est remplie de violence et de corruption actuellement. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que l'homme a un immense besoin d'être convaincu de péché et de se tourner vers le sauveur unique de son âme et de sa vie. Et c'est pour ça que cet appel, que celui qui est stupide entre ici, eh bien, il a encore toute sa valeur aujourd'hui. Et puis la sagesse, en dixième, appelle à recevoir le sacrifice de Christ. Là, il est marqué dans ce verset 5, « Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé. » Voilà, nous avons déjà parlé un petit peu, mais voici l'image du pain et du vin. Le seul moyen d'être libéré du péché, de la culpabilité, de la condamnation, de l'esclavage, de cette mauvaise nature, de ces choses dont nous avons parlé en peu de mots auparavant, du poids du passé, le seul moyen, c'est de venir au Seigneur. C'est de venir à Jésus parce qu'en lui, nous avons la rédemption des péchés, nous est-il dit. En lui, nous avons le pardon par son sang. En lui, nous sommes rendus justes parce qu'il est notre justice. Et il est aussi, l'Écriture nous dit, notre sanctification. Et la véritable sagesse de l'Église fidèle va être encore et toujours d'orienter, d'être ce poteau indicateur, ce panneau qui est pointé en direction de la croix de Jésus, qui invite chacun à venir à lui pour être sauvé, pour être changé, pour être transformé par la gloire et à la gloire et par la puissance de Dieu. Amen. Et puis notre avant-dernier point, c'est que la sagesse appelle à quitter le péché pour recevoir la vie véritable. Quittez, verset 6, la stupidité et vous vivrez. Le Seigneur est celui qui veut donner la vraie vie, la vraie paix, le vrai bonheur. Mais pour ça, il faut d'abord, bien sûr, quitter son ancienne façon de vivre. Il faut reconnaître son péché, voilà. Quitter, comme dit notre passage, sa stupidité, alors tout devient possible. C'est un pasteur qui, il y a un certain nombre d'années, en Angleterre, a suggéré aux membres de sa communauté, de son assemblée, de prier chacun pour un homme ou une femme parmi les pires qu'ils connaissent, et ensuite d'aller leur parler de Jésus. C'est un drôle de défi, hein ? Sacré défi. Et puis en arrivant chez lui, ce pasteur, il s'est dit en lui-même, mais bon, je ne vais pas laisser ça seulement aux gens de l'Assemblée, hein ? Il faut aussi que je le fasse pour moi-même. Alors je ne connais pas du tout les mauvaises gens qu'il peut y avoir dans le quartier de l'Assemblée, il va falloir que je sorte pour prendre des renseignements. Voilà. Donc, il s'approche d'un homme à l'air rude, qu'il rencontre là au coin d'une rue, lui demande « Est-ce que vous seriez l'homme le plus mauvais du quartier ?» Drôle de façon de parler, hein. Drôle de façon de faire. Alors l'autre dit « Ah ben non, c'est pas moi. Hein. » Alors il lui a dit « Mais est-ce que peut-être vous pourriez m'indiquer le plus mauvais de tout ce quartier-là » Alors elle a dit « Ah ben oui, pourquoi pas, vous allez le trouver au numéro 7, au bout de la rue. Hein. » Bon, alors le pasteur va à la porte, numéro 7, il frappe et il entre. Je cherche l'homme le plus mauvais de mon quartier, de ma paroisse, hein, parce que on m'a dit que ça pouvait être vous. Alors, qui c'est qui vous a dit ça ? Amenez-le-moi, on va voir qui c'est qui est le plus mauvais dans le quartier. Voilà. Alors, et puis il dit, bon, bah, écoutez, mais est-ce que vous connaissez l'homme le plus mauvais dans le quartier ? Alors il lui a dit, oui, c'est vrai, tout le monde le connaît. Il habite la dernière maison là-bas dans la cour. C'est le plus mauvais. Alors le faux pasteur, il se déplace. Il arrive à la porte, il frappe. Et là, il y a une voix maussade qui lui dit « Entrez !» Et il y a un homme, une femme qui sont là à l'intérieur. C'est vraiment une maison de misère. C'est la misère dedans. Et puis il dit « Voilà, veuillez, je vous prie, m'excuser. Je suis le pasteur de l'église qui est située dans le secteur. Je cherche l'homme le plus mauvais du district, et parce que j'ai quelque chose à lui dire. Est-ce que vous êtes cet homme-là ? » Alors l'homme, il se retourne vers sa femme, et lui dit, écoute ma femme, répète-lui ce que je t'ai dit il y a 5 minutes. Et puis, lui a dit, non, tu lui dis toi-même, hein, qu'il lui a dit. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous avez dit ? A demandé le visiteur. Eh bien, je viens de boire pendant 12 semaines. J'ai eu le délirium tremens, donc, et j'ai mis en gage tout ce qui pouvait être mis en gage dans cette maison. Et il y a quelques minutes, j'ai dit à ma femme, il faut que ça cesse, sinon j'en finis avec moi-même, je me jette à l'eau. Hein, donc voilà. Et il dit, et ensuite vous avez frappé à la porte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, monsieur, je suis l'homme le plus mauvais. Qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Et alors, eh bien, le serviteur de Dieu lui a répondu, je suis ici pour vous dire que Christ est un merveilleux sauveur et qu'il peut faire de l'homme le plus mauvais l'un des meilleurs. Il l'a fait pour moi et il veut le faire pour vous aussi. Voyez-vous, est-ce que... Et puis cet homme a insisté, mais il a dit, est-ce que vous croyez qu'il pourra faire ça pour moi ? Et puis donc, j'en suis certain, on va se mettre à genoux, et on va demander à Dieu, on va prier, on va lui demander de le faire. Et cet homme, ce buveur, a été délivré par la puissance du Seigneur, délivré de ses péchés. Il est devenu ensuite un chrétien rayonnant qui a pu conduire d'autres buveurs au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça, hein, la reconnaissance de son état, la confession de son péché. Et donc, c'est de cette manière qu'il a accepté de quitter la stupidité pour connaître la vie véritable. Amen. Enfin, la sagesse, c'est notre dernier point, nous appelle à marcher. Marcher dans la voie de l'intelligence. Marcher dans la voie du salut. Être sauvé, ce n'est pas seulement recevoir Jésus-Christ dans son cœur, bien sûr. Ce n'est pas seulement recevoir la vie de Christ. Mais cette vie, elle va nous faire progresser, va nous faire avancer, va nous faire aller de l'avant dans cette obéissance donc au Seigneur, dans cette obéissance à sa volonté, parce qu'il a une volonté pour nous, parce qu'il a un plan, parce qu'il a des projets pour nous, qui sont de bons projets, qui sont les meilleurs des projets pour notre existence, pour notre vie. Et c'est pour ça que, eh bien, tout spécialement ceux qui ont à cœur de faire partie de cette assemblée, eh bien, qu'ils puissent aussi marcher de progrès en progrès par le secours de Dieu et que ça puisse être le cas pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions et te bénissons parce qu'encore ce soir, nous croyons que tu es là au milieu de ton peuple et que tu es